9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue et bon début de semaine à tous. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bénévolat. Je reçois aujourd'hui Elsa Walter, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On dit Walter ou Walter?
On dit plutôt Walter parce que c'est d'origine alsacienne.
D'accord.
Vous pouvez dire
donc,
comme vous voulez.
Voilà, donc on va dire Walter, vous êtes bénévole d'accompagnement auprès des personnes gravement malades et en fin de vie. À noter que c'est le seul bénévolat encadré par la loi dite loi Kouchner.
Hein? Tout à fait.
Parce ouais, que ouais. Les, voilà. Et qu'est-ce que dit l'article de loi vous concernant ce l'encadrement?
Alors, je pourrais pas vous le réciter par cœur, mais en fait, si vous voulez, la logique de cet encadrement par la loi, c'est de se dire que bah, déjà, nous sommes, en tant que bénévoles d'accompagnement, nous sommes des acteurs des soins palliatifs, donc intégrés à tout le dispositif de soins palliatifs, et que ce bénévolat, eh bien, il faut qu'il soit encadré par un certain nombre de règles, notamment de formation et de suivi des bénévoles, parce que c'est pas rien, en fait, de se rendre au chevet de personnes gravement malades. Ce sont des personnes vulnérables. Donc, ça demande un certain encadrement.
Donc, vous dites que vous êtes des acteurs du soin palliatif, mais est-ce que vous êtes, et vous faites partie des acteurs du soin en général?
Si on considère que l'écoute est un soin, je pense qu'on peut dire qu'on fait partie des acteurs du soin, dans le sens où, effectivement, écouter les personnes, c'est aussi, je pense, quelque part, leur apporter un soin.
Quel regard le personnel soignant porte-t-il sur vous? À un moment donné, vous dites que finalement, les médecins, quand ils vous croisent, font que vous êtes assez transparente. Est-ce qu'ils ont conscience de votre présence et est-ce qu'ils savent ce que vous faites?
Oui, alors oui, effectivement, c'est il est vrai que il y a une différence entre la manière dont les médecins nous regardent, c'est-à-dire effectivement pour eux, en tout cas en ce qui concerne le service dans lequel je suis, ils ne nous voient pas beaucoup. En revanche, je suis en contact rapproché avec les infirmiers, les aides-soignants, qui nous font ce qu'on appelle des signalements des personnes malades qui sont soit particulièrement seules ou soit dans des états d'anxiété ou de dépression qui font qu'ils vont avoir particulièrement besoin d'une écoute. Voilà. Mais il est vrai que les médecins, en tout cas dans ce service d'oncologie, sont plutôt ceux qui sont vraiment sur le médical. Et le médical, il n'est pas forcément toujours, ou en tout cas, peut-être qu'il mériterait à être aussi plus tourné vers l'humain.
Vous êtes bénévole d'accompagnement, mais je ne l'ai pas précisé, dans un service d'oncologie. En région parisienne.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'est important de préciser que c'est un service d'oncologie, donc cancer digestif, par rapport à ce qu'on imagine des soins palliatifs. C'est-à-dire que quand on dit on accompagne les personnes en fin de vie, on pense tout de suite aux soins palliatifs.
Qui sont tous en soins palliatifs.
Et en fait, là, c'est un service de soins curatifs. Et dans un service de soins curatifs, l'objectif, c'est toujours de guérir les patients. Et ça, ça fait vraiment une grande différence dans la manière d'aborder les questions liées à la fin de vie dans ce lieu-là où c'est un service de soins curatifs. Et donc, on est tourné vers l'objectif de guérir. Et donc, le tabou qu'il y a dans toute la société autour de la fin de vie, il est également présent dans les services de soins curatifs, là où, dans le palliatif, il y a la culture palliative qui est beaucoup plus développée et qui donc permet de certainement mieux verbaliser ce temps de la fin de vie que dans les services curatifs.
Vous publiez, à vous, je peux le dire, chez Flammarion, un titre emprunté à celle que vous appelez dans votre livre, Jeanne, et elle dit, à vous, je peux le dire, car vous êtes une inconnue. Qu'est-ce qu'on peut dire à des inconnus qu'on ne pourrait pas dire à des proches?
Mais c'est assez paradoxal, en fait, parce que justement, je crois que parce que nous sommes des inconnus, l'intime se livre beaucoup plus facilement qu'il peut se livrer à des proches. Et notamment quand on est dans une situation de maladie grave, on ressent forcément une culpabilité vis-à-vis de ses proches à être malade, à les faire souffrir par cette maladie, à peut-être, s'il y a la mort qui arrive, devoir se séparer. Et donc tout ça fait que les familles aussi motivent la personne pour guérir à tout prix. Et souvent, on voit que dans cet objectif-là, elle demande de continuer les soins alors alors que bon, peut-être que il serait temps d'arrêter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la communication n'est pas simple quand on est dans ce temps de fin de vie et quand il y a beaucoup d'émotionnel parce qu'on s'aime et parce qu'on est des proches. Et donc, justement, le fait que ce soit une oreille anonyme qui arrive, que peut-être on ne reverra jamais, eh bien, ça facilite le fait de déposer des paroles qui sont libres de tout filtre.
À noter que vous écoutez les personnes qui sont malades, mais aussi les familles. Hein. Vous êtes une oreille pour les deux.
Oui, alors la vocation première de ce bénévolat, c'est quand même d'écouter les personnes malades. Mais évidemment, il arrive qu'on écoute les familles parce qu'on les croise dans les couloirs, parce qu'elles nous interpellent, ou même d'aller à leur rencontre. Et je pense que c'est une démarche qui est vraiment complémentaire, justement, pour permettre de faciliter la communication entre eux.
En quoi cette phrase, à vous, je peux le dire, résume-t-elle la raison de votre présence auprès de personnes qui vont peut-être mourir,
qui sont en fin je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne peut dire que à des personnes qui sont anonymes, dont on n'est pas proche, parce que on va pouvoir confier justement des choses qui seraient trop difficiles à entendre par ses proches. Et donc voilà, donc nous, on est quelque part dépositaire d'une parole la plus pure et aussi, je pense, qui libère.
En quoi votre oreille, selon vous, est différente? Si vous avez une oreille différente.
La mienne en particulier ou celle des bénévoles en général?
Alors,
par rapport
effectivement, celle des bénévoles d'accompagnement, mais peut-être que vous-même, vous avez une oreille particulière.
Déjà, on est formé à écouter, c'est-à-dire voilà, à être vraiment en présence de ce qui se dit et à accueillir ça de manière à la fois neutre et bienveillante. Donc, c'est vraiment une écoute très attentive et en même temps sans aucun jugement. Et effectivement, moi, à titre personnel, c'est une manière d'écouter qui me parle beaucoup parce que je pense que c'est comme ça qu'on rencontre en fait la vraie humanité de la personne en face. Et moi, c'est aussi ce qui m'a c'est une des raisons qui m'a poussée à aller vers ce bénévolat, c'est de rencontrer des personnes que je ne connais pas dans une sincérité assez pure et dont finalement on a peu l'habitude dans la vie quotidienne où on porte un petit peu tous des masques sociaux et c'est bien normal. Mais dans cet endroit-là où d'une part, il y a la maladie qui fait qu'on ne peut plus tellement porter de masque et où, en plus, voilà, il y a cette rencontre entre l'anonyme et l'intime qui fait qu'effectivement, l'écoute est particulière.
Vous avez 33 ans, oui. Donc je veux dire que vous êtes une bénévole qui n'est pas retraitée. C'est-à-dire que ça, vous avez un vrai métier. Donc ça veut dire que vous complétez les deux. Hein. Il faut concilier les deux. Peut-être que c'est plus juste comme mot entre votre vie et votre vie de bénévole. Déjà, c'est un engagement de combien d'heures par semaine?
Alors sur le terrain, c'est un engagement d'environ 3-4 heures, enfin une demi-journée. Donc que moi, je réalise plutôt à partir de la fin de la journée, à partir de 18h jusqu'à 21h à peu près. Et puis ensuite, il y a aussi les transmissions hebdomadaires qui prennent du temps. Donc ça consiste à appeler l'association après chaque visite hebdomadaire pour raconter le contenu des visites, pour voilà dire quel patient on a vu, qu'est-ce qui s'est échangé, etc. C'est une manière pour les bénévoles de déposer aussi ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont reçu, qui n'est pas toujours simple à recevoir, qu'il faut traverser aussi. Donc il y a ça. Ensuite, il y a les groupes de parole mensuels, donc animés par une psychologue clinicienne avec d'autres bénévoles.
Ce qui pourrait ressembler à une forme de supervision.
Oui, on peut dire ça, oui. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est une manière de nous accompagner et aussi de s'assurer que on est en capacité de recevoir ça et aussi de nous aider parfois à digérer certaines choses qui se sont vécues ou voilà de se questionner de la bonne manière sur des questionnements qui sont soulevés évidemment hein, par les rencontres qu'on fait.
Mais avant ça, vous avez connu d'autres formes d'engagement associatif et bénévole. Qu'est-ce qui fait qu'à 33 ans, vous vous soyez dirigé vers l'écoute de personnes en fin de vie? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent pourquoi? Ce n'est pas anodin, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Alors, souvent, ce que je réponds, c'est que déjà, il n'y a pas qu'une seule réponse, et que je suis encore en train de chercher la réponse aussi, parce que je pense que c'est une vaste question. C'est un bénévolat qui implique des questionnements existentiels, qui implique un mouvement de vie particulier. C'est un chemin de vie, en fait, aussi, hein, de choisir ce bénévolat. Moi, en fait, c'est vrai que du plus loin que je me souvienne dans mon enfance, j'ai toujours eu des questionnements assez forts autour de la mort, autour de la vie dans la mort, autour du temps de la fin de vie. Voilà. Comme tout le monde, j'ai vécu des expériences de fin de vie, de deuil, etc. Pour ma part, assez jeune. Et je pense que ça a contribué à vraiment m'habiter, en fait. J'avais quelque chose qui m'a toujours habité de ça. Et puis, après, j'ai effectivement, comme vous le disiez, toujours eu des engagements associatifs parce que j'avais besoin de trouver, en fait, une utilité dans cette société qui soit autre que celle qui est rémunératrice. Mais c'était plutôt des engagements théorique, c'est-à-dire pour des causes, voilà. Et en fait, à un moment donné, je crois que j'ai vraiment eu envie d'aller sur le terrain. Plutôt que de défendre une cause comme ça de manière abstraite, plutôt de me trouver auprès des personnes qui en ont besoin.
Vous aviez besoin de mesurer votre utilité ?
Pas forcément la mesurer, mais plutôt la ressentir de manière plus corporelle, peut-être.
Mais 33 ans, c'est tôt. C'est pour ça que je pose la question, pour s'intéresser aux questions de la mort.
Oui, alors...
Il y a aussi, alors vous parlez, et là vous ne l'avez pas évoqué, mais de votre grand-mère, qui est peut-être à l'origine de votre engagement, mais dont vous n'avez pas assisté à la fin, en fait.
Oui, je pense que, en fait, effectivement...
Elisabeth.
Exactement, je vous ai raconté un petit peu l'historique lointain, l'historique proche, c'est-à-dire quelques années avant que je commence à faire ce bénévolat. Effectivement, j'ai perdu ma grand-mère. Alors, bon, c'est assez banal de perdre sa grand-mère autour de la fin de la vingtaine, mais effectivement, j'ai pas pu assister à sa fin de vie parce que j'habitais à l'étranger à l'époque, donc je la voyais deux fois par an, et elle a eu une fin de vie dans un EHPAD, une fin de vie solitaire, douloureuse, et que j'ai eu du mal à comprendre, en fait. J'ai eu une forme de révolte qui est née de voir cette fin de vie d'une personne qui m'était si chère de cette manière-là. Et je crois que j'ai eu besoin à la fois d'accompagner d'autres personnes parce que je ne l'avais pas accompagnée, elle, mais aussi de comprendre l'utilité de ce temps de la fin de vie que j'avais vraiment besoin de comprendre.
Ilsa Walter est notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez à vous, je peux le dire, aux éditions Flammarion. Vous êtes l'invitée de Beurre FM jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et comme c'est la journée mondiale du bénévolat, nous dédions cette émission à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui donnent de leur temps gratuitement pour les autres. Voilà. Qui que vous soyez bénévole, qu'on vous voit sur le terrain, on vous récompense peut-être pas toujours à la hauteur de ce que vous faites. Mais être bénévole, c'est aussi recevoir beaucoup de choses. Mon invitée aujourd'hui s'appelle Elsa Walter. Elle a décidé de consacrer son temps à écouter des personnes en fin de vie dans un service d'oncologie dans un hôpital à Paris. Et vous publiez ce témoignage presque à la demande d'un patient qui aurait aimé lui aussi écrire ce livre, hein, dans un livre très poignant qui s'appelle, qui remue, je peux vous dire, hein, qui s'appelle « À vous, je peux le dire » aux éditions Flammarion. Et vous dites « Je ne soigne pas et je n'écoute pas des malades, mais j'écoute des personnes ». Et pour vous, ça c'est central.
Oui, complètement. Complètement, parce que je pense que à l'hôpital, malheureusement, souvent la personne s'efface derrière la maladie. Et souvent, d'autant plus dans le cas de maladies graves, toute la prise en charge qui s'est développée et qui est maintenant à la pointe fait que souvent la personne elle s'efface. Et aussi dans la manière dont on s'adresse aux malades. Et souvent c'est ce qu'ils me disent. Il y a une patiente dont je raconte le témoignage dans le livre qui me dit j'ai dit au médecin qu'il ne fallait pas qu'il oublie que derrière la maladie, je suis une personne. Et donc, cet effacement de l'identité, elle est très douloureuse, d'autant plus que ce sont des personnes qui déjà sont coupées du monde, en fait, dans ces hôpitaux où ils ne sont en contact qu'avec le corps médical et leur famille. Donc, effectivement, je pense que l'un des rôles de ce bénévolat, c'est aussi de porter quelque part la société civile au chevet de ces personnes malades pour leur dire, voilà, vous êtes toujours, bien sûr, des personnes et vous m'intéressez et j'ai envie de vous découvrir et donc je vous propose qu'on discute.
Il y a parfois des formes d'infantilisation des malades, voilà. Et c'est vrai qu'on oublie, c'est comme les personnes âgées, qu'on se met à appeler mamie ou papy. Tout ça parce qu'ils sont vieux, finalement. Vous parlez-vous de resocialisation, d'une forme de resocialisation des personnes qui sont malades ?
Oui, oui, oui. Ben, je pense que c'est important pour bien vivre ce temps-là de la maladie. C'est-à-dire que, bien sûr, dans le temps de la maladie, il faut se soigner. Mais c'est quand même un temps où on continue à vivre aussi, où la personne continue d'exister. Exister, ça ne veut pas dire uniquement exister pour vaincre la maladie et être dans cette posture de combattant contre cette maladie. C'est aussi exister pour soi en tant que tel. D'autant plus pour les maladies graves qui, parfois, voilà, connaissent des fins où ce sont les derniers moments de la vie. Je pense que c'est d'autant plus important parce que c'est les derniers moments de la vie de pouvoir les vivre en société, de pouvoir normaliser aussi ce temps-là et faire que des activités sociales puissent être maintenues pour cette personne-là.
Mmh. Vous dites que la mort a disparu de notre société. Est-ce qu'on peut savoir à quel moment elle a disparu finalement ?
Alors, a disparu.
Ça n'a pas toujours été le cas. Quand oui, je dis disparu, c'est que elle est sous le tapis.
Oui, 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 voilà.
On la voit plus.
C'est-à-dire qu'elle est invisibilisée.
On n'est plus au contact.
Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'elle a été invisibilisée. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'historien Philippe Ariès qui a écrit un ouvrage qui résume parfaitement ce phénomène historique où finalement la mort en Occident, à partir de l'époque romantique, elle a été on a commencé à en avoir peur et on a commencé à la cacher. Et donc, le temps de la fin de vie, donc ça a aussi coïncidé avec le développement de la médecine qui fait que tout ça s'est professionnalisé. Et donc, on a soigné dans les hôpitaux. Et donc, voilà, on a à la fois écarté les malades de la société pour mieux les soigner, mais aussi on a oublié les rituels autour de la fin de vie qui existaient auparavant et qui étaient centraux aussi pour vivre ce temps-là en société. C'était le mourant à l'époque au Moyen-Âge qui était acteur de sa fin de vie, qui réunissait autour de lui ses proches, les voisins, mais aussi l'entourage lointain qui venait le voir. Même les enfants venaient voir les mourants pour leur dire au revoir. Donc il y avait vraiment quelque chose du rituel social qui existait et le mourant en était vraiment acteur. Aujourd'hui, moi ce que je constate à l'hôpital, c'est que souvent, on n'ose même plus dire à la personne qui est en fin de vie qu'elle est en fin de vie.
Ça, c'est vraiment une phrase qui est bouleversante dans votre livre. Elles ne le savent pas, les personnes. On ne leur dit pas.
Pas toujours, en tout cas. Toutes les situations sont différentes. Alors voilà, il faut toujours mettre des nuances à ça. Mais effectivement, en fait, comme on a peur, parce qu'il y a ce tabou autour de la fin de vie et de la mort, auquel l'hôpital n'échappe pas, et pourtant, on y meurt. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les décès qui ont lieu à l'hôpital, 80% de ces décès ont lieu dans des services curatifs. Donc, je vous expliquais cette différence
entre palliatif.
Voilà, c'est pas palliatif. Donc, ça veut dire que la culture palliative, la culture de l'accompagnement en fin de vie est très peu présente. Et donc, effectivement, dans ces services curatifs, dédié à guérir, on a du mal à aborder ces questions de la fin de vie. Et moi, ce que je constate, c'est que souvent, les fins de vie, elles sont annoncées très tardivement, parfois même quand le patient n'est déjà plus conscient, ou quand il est impossible d'envisager un transfert en soins palliatifs parce que la personne est déjà trop dégradée physiquement pour pouvoir la transporter. Donc effectivement, il y a vraiment une difficulté à dire ça. Parfois, ce sont aussi les familles qui disent aux soignants « ne lui dites pas parce qu'il ne serait pas capable de l'entendre ». Parfois, ce sont les soignants aussi qui eux-mêmes disent « non, il ne serait pas capable de l'entendre, donc on ne va pas lui dire ». Ça, moi, pour moi, ça me questionne beaucoup parce que je me pose la question de comment est-ce qu'on peut décider par une attitude du malade qui nous laisse supposer qu'il ne serait pas capable d'entendre, comment peut-on prendre cette responsabilité de décider qu'on va lui cacher une information essentielle qui concerne quand même juste sa vie.
Sa fin de vie, bien sûr.
Sa fin de vie. Voilà. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des difficultés communicationnelles qui sont vraiment liées au tabou autour de la fin de vie.
Vous dites que c'est un questionnement pour vous, mais qu'est-ce que vous donnez comme réponse, finalement ?
Est-ce que je suis là pour donner des réponses ?
Non, mais je sais, mais je parle à la personne de votre expérience de terrain.
Oui.
Je ne sais pas combien de personnes vous avez accompagnées ou à combien de personnes vous avez parlé depuis toutes ces années. Ça fait combien ? Ça fait des centaines.
Oui.
Des centaines de personnes. Donc vous avez forcément une expérience de terrain et vous avez parlé à des gens dont beaucoup sont partis aujourd'hui. Beaucoup sont morts.
Oui.
Donc finalement, pourquoi ? Et pour tous ceux qui nous écoutent, pourquoi est-ce que c'est important de verbaliser cette fin de vie, selon vous ? De votre expérience, pourquoi il faudrait la verbaliser ?
Alors, je ne dis pas qu'il faut la verbaliser dans tous les cas, parce que je pense encore
une fois...
Donc
il y a quand même des cas où il ne faut pas...
Voilà, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir respecter le déni de la personne, quand c'est une personne qui vraiment ne veut pas savoir. Elle a ses raisons, c'est sa manière de vivre la chose, il faut respecter ça. Je pense qu'il faut toujours respecter la volonté des personnes. Ça, c'est très important. En revanche, ce que moi, je constate, c'est que les fins de vie qui sont les plus douloureuses, qui sont les plus déchirées, c'est les fins de vie, effectivement, où il y a ce déni. Où on ne dit pas que la fin de vie est là, où finalement on fait semblant qu'on est encore en train de guérir. Parfois, on continue des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie jusqu'au bout. Parfois, on programme même des opérations alors que la personne est clairement dans un état qui fait que... Moi, je me souviens par exemple de témoignages d'une femme qui avait 78 ans qui me disait « Moi, j'ai très peur parce qu'on m'a programmé... » «
Je veux plus qu'on m'ouvre le ventre. »
Voilà, exactement. On lui avait programmé une opération. Elle ne voulait pas. On l'a fait quand même, donc aussi parce que le rôle de la famille qui va pousser à toujours essayer de guérir, etc. Voilà, tout ça, en tout cas, tous ces problèmes de verbalisation de la fin de vie qui arrive ou qui est là, souvent créent des angoisses, créent des non-dits et rendent les séparations d'autant plus difficiles qu'on ne peut pas dire ce qu'on a à se dire juste avant une séparation ultime, parce que forcément on a des choses cruciales à se dire dans ce moment-là, et donc pour pouvoir se les dire, il faut déjà pouvoir admettre que la fin de vie est là où s'annonce.
Mais qu'est-ce qui bloque la possibilité de verbaliser ? C'est quoi ? C'est la peur de trouver les mots justes, vous voyez ?
Ça peut être plein de choses. Souvent, c'est la culpabilité aussi. La culpabilité à la fois du patient qui, parfois, peut sentir en lui-même que ça va être la fin. Moi, je pense qu'il y a quelque part une intuition du corps aussi. Mais comme il se sent coupable de ne pas réussir en tant que combattant contre ce cancer, il n'a pas réussi. Donc, il se sent coupable de ne pas avoir gagné cette guerre. Donc, il va pas l'admettre. Donc finalement, il va jouer ce jeu aussi de continuer à se faire soigner. Il va pas vouloir contredire sa famille
parce qu'il fait semblant devant sa famille, c'est ça ?
Je pense que ça peut arriver, effectivement. Alors, faire semblant, c'est un peu péjoratif comme terme.
Quand je dis faire semblant, c'est pour pas faire de peine, finalement.
Voilà, c'est pour pas faire de peine. Oui. Exactement, c'est pour pas faire de peine. Et de l'autre côté...
C'est donner le change.
C'est ça. Et de l'autre côté, les familles, de la même manière, pour ne pas faire de peine, même si elles peuvent voir, parfois, on voit des états de corps qui font que, on comprend. Mais finalement, elles ne vont pas non plus oser verbaliser parce qu'elles ont peur de blesser la personne qui est en fin de vie, leurs proches... en leur disant, ou alors elles ont peur que la personne pense qu'en fait elle ne les aime pas assez et que donc c'est pour ça qu'elles ont des facilités à dire tu es en fin de vie. Donc tout ça, encore une fois, je pense que tout ça c'est une acculturation qu'on a de ce tabou de la fin de vie qui fait que finalement on est paralysé quand il s'agit de verbaliser ça et ça fait du mal.
Elsa Walter, vous êtes notre invitée. On a encore un petit peu de temps. Vous êtes notre invitée jusqu'à 10h. Je rappelle le titre de votre livre. À vous, je peux le dire, aux éditions Flammarion.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h. AVS avec Philippe Robichon.
Et c'est Elsa Walter qui partage son histoire ce matin jusqu'à 10h. Elle est, alors j'allais dire écoutante, mais non, c'est bénévole, accompagnante des personnes qui sont soit malades, soit en fin de vie, dans un hôpital et dans un service d'oncologie à Paris. Et vous racontez votre histoire dans un livre qui s'appelle « À vous, je peux le dire » aux éditions Flammarion. Vous racontez un petit peu comment est votre parcours de bénévole, hein, qui dans une association reconnue aujourd'hui d'utilité publique, l'exigence de votre parcours de recrutement et de formation. Et pourtant, dites-vous, aujourd'hui, on manque cruellement de bénévoles dans votre secteur.
Oui, effectivement, oui, il y a une pénurie qui est constatée par l'ensemble des associations. Il y a d'ailleurs eu des appels de certaines associations pour essayer de recruter davantage de bénévoles. Effectivement, alors déjà, il y a eu un mouvement global après la crise du Covid et les différents confinements de désertion du bénévolat de manière générale. Je crois avoir entendu qu'il y a eu 4 millions de bénévoles en moins au niveau national, tout bénévolat confondu. Donc voilà, on n'a pas échappé à ça. En revanche, je pense qu'il y a des problématiques aussi plus spécifiques par rapport à ce bénévolat, qui est, comme on en a discuté, un bénévolat exigeant en termes d'engagement, en termes de temps passé, qui est aussi un bénévolat sur lequel on s'engage sur le long cours, sur plusieurs années, dans lequel on est formé, dans lequel on est suivi. Tout ça, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Quand on est dans la vie active, quand on a un métier à côté, effectivement, c'est pas toujours facile de concilier les deux. Alors, ça se fait au cas par cas, en fonction des environnements professionnels. Et il y a même des personnes, moi je connais des bénévoles, qui ont fait le choix de se mettre à mi-temps pour pouvoir vraiment s'impliquer énormément dans ce bénévolat. Donc, effectivement, je pense que on gagnerait à être beaucoup plus nombreux, parce que la réalité, c'est que on ne peut pas aller dans toutes les chambres. On n'est tout simplement pas assez nombreux. Déjà, tous les services hospitaliers ne sont pas forcément dotés de ce type de bénévoles. En fait, ce sont des conventions qui existent entre les services hospitaliers et les associations. Donc, il n'y a pas des conventions dans tous les services. Donc, effectivement, on passe à côté de personnes qui auraient besoin d'un accompagnement, tout simplement par manque de ressources humaines. Ouais.
Comment est-ce que vous rentrez en contact avec les gens? On ne peut pas leur imposer. Hein. Donc, déjà, vous leur demandez s'ils sont d'accord. Comment ça se passe?
Alors déjà, je suis orientée par les soignants vers des chambres de personnes qui vont soit être particulièrement seules, pas avoir beaucoup de visites, soit avoir des angoisses ou des symptômes qui font qu'elles vont avoir particulièrement besoin de parler. Donc je toque à la porte, tout simplement. Généralement la porte de la chambre est fermée. On me permet d'entrer et là je me présente.
Vous présentez, Elsa?
Tout simplement, je me présente, je dis bonjour, je m'appelle Elsa, je suis bénévole au sein du service. Voilà, je viens vous rencontrer. Si vous avez envie de passer un petit moment, on pourrait discuter. Voilà, généralement, c'est à peu près ça. Les mots peuvent varier en fonction, mais c'est toujours à peu près ça. Et donc, effectivement, c'est un moment délicat parce que la personne, souvent, elle est surprise par ce type de proposition. On n'a pas forcément l'habitude. Déjà, ils ne voient passer dans leur chambre que des soignants. Donc là, c'est une personne qui n'est pas en blouse blanche. Et donc, effectivement, c'est un moment où on est toujours un petit peu à marcher sur des œufs pour aussi essayer de comprendre où se situe la personne dans ce qu'elle vit quand on entre en contact visuel avec elle. Voilà, de trouver le bon positionnement, les bons mots, même la bonne tonalité de voix pour se mettre au diapason et finalement que notre proposition de conversation ait le plus de chances d'être acceptée.
Oui, plus qu'une compétence, vous parlez d'une conscience.
Oui, je pense que c'est la conscience de ce qu'on a à échanger avec les autres humains. C'est une conscience d'une certaine humanité qui se trouve là, qui se trouve dans ces hôpitaux, et qu'il est difficile de regarder parce que effectivement, ça fait peur, comme on le disait, pour tout ce tabou qui est lié, voilà, et parce que évidemment, c'est pas agréable de regarder la maladie, de regarder des personnes qui sont en souffrance. Mais je crois que c'est effectivement la conscience aussi que cette souffrance-là, On a peut-être le devoir, collectivement, de la partager, d'en prendre notre part, parce que on est dans une société où on est tous interconnectés, et que je pense qu'on a le devoir de s'aider mutuellement les uns les autres.
Ma question va peut-être vous paraître décalée, pas appropriée, idiote, stupide. Est-ce que ceux qui vont mourir ont peur de mourir ?
Ça dépend. Ça dépend, mais alors, c'est une très bonne question, puisque en fait...
Moi, j'ai failli pleurer dans votre livre, parce qu'on s'attache à des gens, parce qu'il y a des gens qui, au final, vont bien au départ. Hein, Voilà. Mais est-ce que ce sont des gens qui ont peur de mourir ? Est-ce que la mort leur fait peur ? Et qu'est-ce qui leur fait peur ?
En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on suit des personnes tout au long de leur parcours, et on peut voir aussi la manière dont elles évoluent par rapport à cette peur de la mort ou par rapport à cette peur d'autre chose que la mort. Souvent, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est la peur de la dégradation, c'est la peur de la souffrance, c'est la peur de la dépendance. C'est toutes ces peurs-là. C'est finalement pas tant la peur de la mort en tant que telle, du fait d'être mort. C'est plutôt... En l'occurrence, le regret de devoir se séparer d'une vie qu'ils aiment. Mais c'est plutôt la peur, effectivement, de la souffrance, de la perte d'autonomie. Ça, ce sont vraiment des peurs très fortes et évidemment qu'on comprend bien.
Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau au contact des personnes malades et en fin de vie que vous ne saviez pas avant de les écouter ?
En fait, je crois que j'ai surtout expérimenté de plus près ce qu'est la fin de vie, et que en expérimentant ça, j'ai compris que vu de près, ça fait beaucoup moins peur que l'imaginaire qu'on en a. C'est-à-dire que moi, je suis comme tout le monde, avant d'aller à l'hôpital, j'avais un imaginaire autour de ça. Je pense qu'on a tous un imaginaire autour de la mort, autour de la fin de vie. Et c'est des imaginaires qui souvent sont très angoissants, parce que justement, on ne connaît pas.
Et je crois on que j'avais a peur besoin... de ce qu'on ne connaît pas, ça c'est
exactement.
Vrai.
Exactement. Et je crois que justement, j'avais besoin d'aller me confronter à la réalité de ce que c'est que ce temps de la maladie grave et de la fin de vie pour voir, par rapport à l'imaginaire que j'en avais, qu'est-ce qu'il en est concrètement. Et effectivement, moi, ce que j'ai appris, c'est que il ne faut pas... Enfin, je pense qu'on gagnerait à en avoir moins peur. Voilà, je pense que ce sont des temps de vie, ce sont des personnes qui gagnent à être connues et que voilà, il faut s'apaiser par rapport à tout ça en se confrontant au réel qui n'est pas si terrifiant que ça.
Mmh. Et qu'est-ce que vous avez compris sur le sens de la vie ?
Sur le sens de la vie.
Vous vous posez une question à un moment donné, quel est le sens de la vie finalement ?
Oui. Alors, moi, ça m'évoque la parole d'un patient qui, justement, au seuil de sa vie, il sait qu'il va mourir. C'est un patient qui n'est pas du tout dans le déni, hein, qui est très conscient de ce qu'il vit, qui s'approche de la mort, etc. Et en fait, il dit « Toute ma vie, je me suis posé la question du sens de la vie. Et maintenant qu'elle est quasiment sur le point de se terminer, en fait, je réalise qu'il n'y en avait peut-être pas de sens. » Et que c'est pas si grave que ça. Voilà. Donc c'est une des réponses qu'on peut apporter au sens de la vie. C'est finalement, je pense que, et c'est d'ailleurs le dernier témoignage, et je l'ai mis en dernier pour cette raison-là, c'est le témoignage d'un prêtre qui était pour moi absolument bouleversant, qui dit il faut vivre. Tout ce qui m'intéresse finalement dans la vie, c'est de vivre. C'est un prêtre qui est assez particulier puisque en fait, il fait peu cas de la vie après la mort. C'est pas une question qui l'intéresse. Il dit moi, ce que j'aime, c'est la vie. Donc je pense que
d'ailleurs, la vie après la mort est très peu présente dans votre livre.
Oui, effectivement, parce que c'est pas une question qui se pose souvent pour les patients. Alors, ce qui revient en revanche et qui est quand même assez lié, c'est la question du destin, la question de la destinée. Ça, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup, notamment chez les personnes croyantes qui finalement s'en remettent au destin et qui se disent bon ben voilà, de toute façon, et quelque part, ça les libère d'une certaine culpabilité, puisque en s'en remettant au destin, ce ne sont plus elles qui sont ces personnes guerrières à aller affronter la maladie. Finalement, les choses sont déjà décidées pour elles et quelque part, ça leur apporte aussi une forme d'apaisement.
Quelles sont les qualités de quelqu'un qui écoute et qui accompagne quelqu'un en fin de vie ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour...
Pour
faire cette forme de bénévolat.
Je pense qu'il faut juste avoir déjà l'envie. parce que je pense que c'est très important d'avoir l'envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on va dans cet endroit-là, que ce soit aussi des raisons personnelles qui nous poussent à aller dans cet endroit-là, c'est-à-dire pas uniquement le fait de se dire de manière charitable, je vais aller aider parce que c'est mon devoir, parce que c'est presque ma pénitence, parce que voilà, non. Je pense qu'il faut aussi se trouver des motivations personnelles, parce que, comme vous le disiez très bien, de la même manière qu'on donne cette écoute, nous, on reçoit énormément. Voilà. Mais je pense que la qualité principale, tout simplement, c'est la qualité d'écoute. C'est-à-dire se mettre dans des dispositions de vraiment se dire qu'est-ce qu'on comprend de ce que l'autre dit. Au-delà des mots, au-delà juste des verbes, c'est de comprendre aussi par l'attitude, là où il se trouve, de pouvoir aussi questionner, décoder des langages qui pourraient être en apparence finalement des langages de personnes qui sont dans une conscience de ce qu'ils sont, alors que finalement, ils se questionnent. Voilà, donc c'est vraiment l'écoute au sens le plus large, et je pense qu'on en est tous capables. Encore faut-il se mettre dans les bonnes dispositions pour le faire.
Comment est-ce que vous rechargez vos batteries, Elsa, quand vous en avez besoin?
Alors, ça va vous surprendre, mais en fait, je crois que c'est de me rendre à l'hôpital qui recharge mes batteries. Ça ne m'enlève pas du tout de l'énergie, ça m'en donne, en fait. Je crois que ces rencontres me donnent beaucoup d'énergie parce que ça me donne de la vitalité. Parce que ce qui se passe dans ces chambres-là, en termes d'échanges humains, c'est tellement riche que moi, ça me remplit. Et donc, je ressors avec de l'énergie.
Voilà, à lire votre témoignage hein, dans le livre qui vient de sortir. C'est « À vous, je peux le dire » aux éditions Flammarion. Elsa Walter, merci d'être venue aujourd'hui dans cette journée particulière où on célèbre les bénévoles qui, comme vous, sont utiles. La société a besoin des bénévoles. Voilà, et puis on vous dit merci ce matin. Merci Elsa.
Merci à vous.
Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.